Chapitre 2. Mrs. Leveret, le jour de l'événement, arriva tôt chez Mrs. Ballinger, son volume des citations appropriées dans sa poche. Cela troublait toujours Mrs. Leveret d'être en retard au lunch club. Elle aimait à rassembler ses pensées et à rechercher, tandis que les autres s'assemblaient, des indices lui indiquant le tour qu'allait prendre la conversation. Ce jour-là, toutefois, elle se sentait complètement perdue, et même le contact familier avec son exemplaire des « citations appropriées » collé à elle tandis qu'elle s'asseyait ne parvenait pas à la rassurer. C'était un magnifique petit volume, une compilation permettant de faire face à toutes les urgences en société, que ce soit à l'occasion d'anniversaires joyeux ou tristes, de banquets sociaux ou municipaux, de baptêmes de l'Église d'Angleterre ou d'une autre religion, afin que son possesseur ne soit jamais à court de citations pertinentes. Mrs. Leveret, bien qu'elle ait parcouru pendant des années ces pages avec ferveur, l'appréciait plus pour son support moral que pour les services pratiques qu'il pouvait lui rendre. En effet, même si dans l'intimité de sa chambre, elle commandait à une armée de citations, celle-ci l'abandonnait invariablement au moment critique, et la seule phrase qu'elle pouvait retenir, « Peux-tu attraper un léviathan avec un hameçon ?» n'avait jamais pu être utilisée en aucune occasion. Ce jour-là, elle pensait que même une connaissance exhaustive du volume n'aurait pu lui apporter une complète maîtrise d'elle-même. Car elle pensait que, même si elle parvenait miraculeusement à se souvenir d'une citation, ce ne serait que pour découvrir qu'Osric Dane utilisait une édition différente. Mrs. Leveret pensait en effet que toutes les personnes lettrées se promenaient avec leur propre recueil, et qu'en conséquence, elle ne reconnaîtrait même pas la dite citation. L'impression qu'avait Mrs. Leveret d'être à la dérive était amplifiée par l'apparence de la salle à manger de Mrs. Ballinger. Pour un œil non exercé, son aspect était inchangé, mais ceux qui connaissaient bien la façon qu'avait Mrs. Ballinger d'organiser ses livres auraient immédiatement détecté les signes d'un changement récent. Le domaine de Mrs. Ballinger, en tant que membre du Lunch Club, c'était le livre du jour. À propos de celui-ci, quel qu'il soit, roman ou psychologie expérimentale, elle était toujours au courant de tout, avec assurance et autorité. Ce que devenaient les livres de l'année dernière, ou même de la semaine dernière, ce qu'elle avait fait des sujets qu'elle avait abordés auparavant avec une autorité toujours égale, personne ne l'avait encore découvert. Son esprit était un hôtel où les fées allaient et venaient comme des voyageurs en transit, sans laisser leur adresse et, souvent, sans payer pour leur séjour. C'était la fierté de Mrs. Ballinger que d'être toujours au fait de la pensée du jour, et de faire montre de cette position avancée par les livres qui se trouvaient sur la table. Ces volumes, fréquemment renouvelés et presque toujours fraîchement sortis des imprimeries, portaient des noms généralement inconnus de Mrs. Leveret. Lorsqu'elle les regardait à la dérobée, ils lui donnaient un aperçu décourageant des nouveaux champs de savoir qu'il lui faudrait parcourir, épuisés, dans le sillage de Mrs. Ballinger. Mais ce jour-là, un certain nombre de volumes plus anciens étaient adroitement mêlés avec les dernières nouveautés des imprimeurs. Karl Marx y côtoyait le professeur Bergson, et les Confessions de Saint-Augustin se trouvaient à côté des derniers travaux sur le mendélisme. Il était donc clair, même dans l'esprit embrumé de Mrs. Leveret, que Mrs. Ballinger ne savait pas le moins du monde de quoi Osric Dane pourrait bien parler, et s'était préparée à tout. Mrs. Leveret se sentait comme le passager d'un steamer auquel on aurait dit qu'il n'y avait aucun danger immédiat, mais qui qu'il valait quand même mieux mettre son gilet de sauvetage. Ce fut un soulagement que d'être libéré de ses appréhensions par l'arrivée de Miss Van Vluyck. « Eh bien, ma chère, » demanda vivement la nouvelle venue à son hôtesse, « de quel sujet discuterons-nous aujourd'hui ?» Mrs. Ballinger était occupée à remplacer furtivement un volume de Wordsworth par un Verlaine. « Je n'en sais rien, » répondit-elle nerveusement. « Peut-être vaut-il mieux nous en remettre aux circonstances ?»« Aux circonstances, » répondit sèchement Miss Van Vluyck. « Cela veut dire, je suppose, que Laura Glyde va occuper tout le terrain, comme d'habitude, et que nous allons nous retrouver sous un déluge de littérature. » La philanthropie et les statistiques étaient la spécialité de Miss Van Vluyck, et elle s'élevait contre toute tentative de détourner l'attention de leur invité de ces sujets. Mrs. Plint apparut à ce moment. « La littérature, » protesta-t-elle d'un ton de reproche. « Mais c'est tout à fait inadéquat. J'avais compris que nous parlerions du roman d'Osric Dane. » Mrs. Ballinger grimaça à cette critique, mais la laissa passer. « Nous pouvons difficilement en faire notre sujet principal, ou tout au moins pas trop ouvertement, » suggéra-t-elle. « Bien sûr, nous pouvons laisser glisser nos échanges vers cette direction, mais nous devons avoir un autre sujet en guise d'introduction, et c'est sur ce point que je souhaitais vous consulter. » Le fait est que nous en savons si peu sur les goûts et les centres d'intérêt d'Osric Dane qu'il est difficile de se préparer à quelque chose de précis. « C'est peut-être difficile, » dit Mrs. Plint d'un air décidé, « mais c'est nécessaire. Je sais à quoi mènent ces principes de laisser-aller. Comme l'a dit une de mes nièces l'autre jour, une dame doit toujours être préparée à certaines éventualités. » Il est choquant de rendre une visite de condoléances avec des vêtements de couleur, ou de porter une robe de l'année dernière quand la rumeur court que votre mari fait de mauvaises affaires, et il en est de même pour la conversation. Tout ce que je demande, c'est de savoir par avance de quoi nous allons parler, et alors je me fais fort de pouvoir dire des choses appropriées. « Je suis tout à fait d'accord avec vous, » reconnut Mrs. Ballinger, « mais... » Et à cet instant, annoncé par la voix émue de la femme de chambre, Osric Dane apparut sur le seuil. Mrs. Leveret raconta plus tard à sa sœur qu'elle avait deviné dès le début ce qui allait se passer. Elle vit qu'Osric Dane n'allait pas faire les choses à moitié. Cette personne distinguée était entrée comme si elle était venue là contre son gré, et ne semblait pas précisément disposée à rendre aisé l'exercice de l'hospitalité. C'était comme si elle était là pour se faire photographier pour une nouvelle édition de son livre. Le désir d'honorer une divinité est généralement inversement proportionnel à ce qu'elle est visiblement désireuse d'accorder, et le sentiment de découragement produit par l'entrée d'Osric Dane augmenta visiblement le désir du Lunch Club de lui plaire. Toute idée qu'elle ait pu se sentir le moins du monde redevable envers ses invités fut instantanément oubliée au vu de ses manières. Comme le dit plus tard Mrs. Leveret à sa sœur, elle avait une façon de vous regarder qui vous faisait vous demander si vous aviez votre chapeau de travers. Cette preuve de supériorité produisit une telle impression sur ces dames qu'un frisson de terreur les parcourut quand Mrs. Robbie, tandis que leur hôtesse menait le grand personnage dans la salle à manger, se retourna pour murmurer aux autres « Quelle brute !» L'heure passée autour de la table ne fit rien pour changer ce verdict. Tandis qu'Osric Dane avalait silencieusement le menu de Mrs. Ballinger, les membres du club rivalisaient de platitudes que leur invité semblait avaler aussi négligemment que les plats successifs du déjeuner. La réticence de Mrs. Ballinger à choisir un sujet avait plongé le club dans un désarroi qui s'amplifia encore quand elles retournèrent au salon où la véritable discussion devait commencer. Chacune des dames attendait qu'une autre prenne la parole, et il y eut une déception générale lorsque leur hôtesse ouvrit la conversation par une question douloureusement banale. Est-ce votre première visite à Hillbridge ? Même Mrs. Leveret avait conscience que c'était une mauvaise entrée en matière, et une vague impulsion poussa Miss Glyde à se déprécier en ajoutant « Bien sûr, c'est tout petit ici. » Mrs. Plinth s'irrita. « Nous avons beaucoup de personnes très représentatives, » dit-elle, du ton de quelqu'un qui défend les siens. Osric Dane se retourna vers elle et demanda « Et que représente-t-elle » L'aversion viscérale qu'éprouvait toujours Mrs. Plinth lorsqu'on lui posait une question était cette fois renforcée par son sentiment d'impréparation, et elle passa la question à Mrs. Ballinger d'un regard lourd de reproche. « Eh bien, » dit cette dernière en regardant tour à tour les autres membres, « je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que notre communauté ici réunie représente la culture. » « L'art, » ajouta Miss Glyde. « L'art et la littérature, » concilia Mrs. Ballinger. « Et la sociologie aussi, je crois, » dit hâtivement Miss Van Vluyck. « Nous avons un but, » dit Mrs. Plinth, se sentant soudain sûre d'elle sur le terrain des généralités. Et Mrs. Leveret, pensant qu'il y avait de la place pour plusieurs dans un espace aussi large, trouva le courage de murmurer « Oh, c'est certain, nous avons un but. » « L'objectif de notre petit club, » reprit Mrs. Ballinger, « c'est de concentrer les aspirations les plus élevées de Hillbridge, de centraliser et canaliser ses efforts intellectuels. » Cela semblait tellement bien senti que les dames poussèrent un soupir de soulagement presque audible. « Nous aspirons, » continua la présidente, « à rester en contact avec ce qu'il y a de plus élevé dans l'art, la littérature et l'éthique. » Osric Dane se tourna à nouveau vers elle. « Quelle éthique ?» Un frémissement d'appréhension parcourut la pièce. Aucune de ces dames n'avait besoin d'une quelconque préparation pour donner un avis sur une question de morale, mais quand on parlait d'éthique, c'était différent. Les membres du club, l'Encyclopédia Britannica, le Reader's Handbook ou le Classical Dictionary de Smith bien en tête, pouvaient aborder avec confiance n'importe quel sujet, mais quand il leur était arrivé d'être pris au dépourvu, elles s'étaient déjà retrouvées à définir l'agnosticisme comme une hérésie ancienne, ou le professeur Froud comme un histologiste distingué, et des membres mineurs comme Mrs. Leveret continuaient à voir dans l'éthique quelque chose de vaguement païen. Même pour Mrs. Ballinger, cette question était vaguement déstabilisante, et il y eut un sentiment général de gratitude quand Laura Glyde se pencha en avant pour dire avec un accent de sympathie des plus prononcés « Vous devez nous excuser, Mrs. Dane, de ne pas être capable pour l'instant de parler d'autre chose que des ailes de la mort. »« Oui, » dit Miss Van Vluyck dans une soudaine résolution de porter la guerre dans le camp de l'ennemi. « Nous sommes tellement impatientes de savoir ce que vous aviez en tête lorsque vous avez écrit ce formidable livre. » « Vous verrez, » ajouta Mrs. Plinth, « que nous ne sommes pas des lectrices superficielles. »« Nous avons hâte que vous nous disiez, » continua Miss Van Vluyck, « si la tendance pessimiste du livre est une expression de vos propres convictions, ou si, ou simplement, » s'imposa Miss Glyde, « un sombre arrière-plan esquissé pour mettre encore plus en relief vos personnages. » « Votre travail n'est-il pas avant tout plastique ?»« J'ai toujours soutenu, » ajouta Mrs. Ballinger, « que vous représentez la méthode purement objective. » Osric Dane se servit du café d'un air critique. « Comment définissez-vous objective ?» demanda-t-elle. Il y eut une pause terrible avant que Laura Glyde ne murmure avec intensité. « Quand nous lisons, nous ne définissons pas, nous ressentons. » Osric Dane sourit. Le cervelet, remarqua-t-elle, n'est généralement pas le siège des émotions littéraires. Et elle prit un second morceau de sucre. L'attaque que cette remarque semblait vaguement contenir fut presque neutralisée par la satisfaction qu'on leur parla dans un langage aussi technique. « Ah, le cervelet !» dit Miss Van Vluyck complaisamment. « Le club a suivi un cours de psychologie l'hiver dernier. »« Quelle psychologie ?» demanda Osric Dane. Il y eut une nouvelle pause qui fut une agonie durant laquelle chaque membre du club déplora secrètement la désespérante inefficacité des autres. Seule Mrs. Robby sirotait paisiblement sa chartreuse. Enfin, Mrs. Ballinger dit, d'une voix qui se voulait forte, « Eh bien, vraiment, vous savez, c'était l'an dernier ces cours de psychologie. » Et cet hiver, nous avons été tellement absorbés par... » Elle s'interrompit, essayant nerveusement de se souvenir des discussions du club. Mais ses facultés semblaient paralysées par le regard terrifiant d'Osric Dane. Par quoi le club avait-il été absorbé ? Mrs. Ballinger, dans le vague espoir de gagner du temps, répéta lentement... Nous avons été si intensément absorbés par... Mrs. Robby posa son verre de liqueur et s'approcha du groupe en souriant. « Par Zingu ? » compléta-t-elle avec douceur. Un frisson parcourut les autres membres. Elles échangèrent des coups d'œil confus, puis enfin posèrent ensemble sur leur sauveur un regard où se mêlaient le soulagement et l'interrogation. L'expression de chacune exprimait une phase différente d'une même émotion. Mrs. Plint fut la première à redonner à son visage un air de complète assurance. Après un moment de rapide ajustement, son regard suggérait presque que c'était elle qui avait soufflé le mot à Mrs. Ballinger. « Zingu, bien sûr !» s'exclama cette dernière avec sa promptitude accoutumée, tandis que Miss Van Vluyck et Laura Glyde semblaient explorer les tréfonds de leur mémoire. Et Mrs. Leverett, pensant avec appréhension aux citations appropriées, était un peu rassurée de sentir la pression inconfortable du volume contre sa personne. Le changement de contenance d'Osric Dane n'était pas moins frappant que celui de ses interlocutrices. Elle aussi posa sa tasse de café, mais avec un air contrarié. Elle aussi prit un bref instant ce que Mrs. Robby décrirait plus tard comme l'air de quelqu'un qui cherche quelque chose tout au fond de sa mémoire. Et avant qu'elle ait pu dissimuler ses signes de faiblesse momentanée, Mrs. Robby s'était tournée vers elle avec un sourire plein de déférence et lui avait dit « Et nous espérions tellement que vous pourriez nous dire aujourd'hui ce que vous en pensez. » Osric Dane reçut l'hommage de ce sourire comme allant de soi, mais la question qui l'accompagnait l'embarrassait évidemment et il devint clair pour tous ceux qui l'observaient qu'elle n'était pas capable de changer rapidement l'expression de son visage. C'était comme si sa contenance avait été depuis tellement longtemps figée dans une expression de supériorité incontestée que les muscles s'étaient atrophiés et refusaient d'obéir à ses ordres. « Zingu !» dit-elle, comme si elle cherchait à son tour à gagner du temps. Mrs. Robby poussa son avantage. Sachant à quel point le sujet est absorbant, vous comprendrez comment il se fait que le club ait pu laisser tomber tout le reste pour l'instant. Depuis que nous avons abordé Zingu, je pourrais presque dire que, mis à part vos livres, plus rien d'autre ne valait la peine qu'on s'y intéresse. Les traits ternes d'Osric Dane furent assombris plutôt qu'éclairés par un sourire incertain. « Je suis heureuse d'entendre que vous faites une exception. » murmura-t-elle, les lèvres serrées. « Oh, bien sûr !» répondit aimablement Mrs. Robby. « Mais comme vous nous avez montré que, et c'est bien naturel, vous n'avez pas envie de parler de vous, Nous ne pouvons vraiment pas vous laisser partir sans nous avoir dit exactement ce que vous pensez de Zingu. Surtout, ajouta-t-elle, avec un sourire encore plus persuasif, que certains disent que l'un de vos livres en était littéralement saturé. Ainsi donc, c'était une chose. Cette certitude se répandit comme une traînée de poudre dans l'esprit épuisé des autres membres. Dans leur empressement à glaner le plus petit indice concernant Zingu, elles oublièrent presque leur plaisir à assister à la déconfiture de Mrs. Dane. Cette dernière rougit nerveusement devant le défi lancé par son adversaire. « Puis-je vous demander, bafouilla-t-elle, auquel de mes livres vous faites référence ?» Mrs. Robby ne bafouilla pas. « C'est justement ce que je souhaitais que vous nous disiez, parce que, bien que j'aie été présente, je n'y ai pas participé. »« Présente à quoi ?» répliqua Mrs. Dane. Et, pendant un instant, les membres terrifiés du Lunch Club pensèrent que le champion dont la Providence leur avait fait don avait perdu un point. Mais Mrs. Robby s'expliqua gaiement. « À la discussion, bien sûr !» Et donc, nous sommes tellement impatientes de savoir de quelle façon vous êtes entrée dans le Zingu. Il y eut une pause de mauvais augure, un silence tellement lourd de dangers incalculables que tous les membres du club, d'un commun accord, retinrent les mots qu'ils s'apprêtaient à prononcer, comme des soldats qui jettent leurs armes pour regarder le combat singulier entre leurs chefs. Alors, Mrs. Dane donna corps à leur plus indicible terreur, en disant d'une voix acérée « Ah, vous dites donc le Zingu !» Mrs. Robby sourit témérairement. « Oui, c'est un peu pédant, n'est-ce pas? Personnellement, je n'utilise jamais l'article, mais je ne sais pas ce que les autres membres en pensent. » Les autres membres la regardèrent comme si elle se serait volontiers passée de cet appel à leur opinion, et Mrs. Robby, après avoir embrassé tout le groupe de son regard brillant, poursuivit « Elle pense probablement, comme moi, que rien ne compte véritablement à part la chose elle-même, Zingu. » Aucune réponse immédiate ne sembla venir à l'esprit de Mrs. Dane, et Mrs. Ballinger rassembla son courage pour dire « Certainement, tout le monde doit penser cela à propos de Zingu. » Mrs. Plint vint à son secours avec un lourd murmure d'assentiment, et Laura Glyde soupira avec émotion « Je connais des cas où cela a changé une vie entière. »« Cela m'a fait tellement de bien !» ajouta Mrs. Leverett, et elle sembla se souvenir que soit elle en avait pris l'hiver dernier, soit elle l'avait lu. Bien sûr, admit Mrs. Robby, la difficulté, c'est que l'on doit y consacrer tellement de temps. C'est vraiment très long. Je ne peux pas imaginer, dit Miss Van Vluyck, que l'on puisse compter le temps qu'on consacre à un pareil sujet. Et tellement profond à certains passages, poursuivit Mrs. Robby. Il s'agissait donc d'un livre. Et il ne faut rien sauter.
Je ne saute jamais rien, répondit dogmatiquement Mrs. Plint.
Ah, ce serait dangereux avec Zingu. Même au début, il y a des passages où ce n'est pas possible. On peut juste patauger.
Je n'appellerai pas ça patauger, dit sarcastiquement Mrs. Ballinger.
Mrs. Robby lui lança un regard intéressé. « Ah, vous trouvez qu'on n'y patauge jamais, qu'on y est toujours à son aise ?» Mrs. Ballinger hésita. « Bien sûr, il y a des passages difficiles, concéda-t-elle. »«
Oui, certains ne sont pas clairs du tout, même, ajouta Mrs. Robby, même si on est habitué à l'original. »«
Comme vous l'êtes vous-même, je suppose, » interrompit Osric Dane, la défiant soudain du regard. Mrs. Robby balaya cette remarque d'un geste.
« Oh, ce n'est pas vraiment difficile jusqu'à un certain point, bien que certaines ramifications soient très peu connues, et il est presque impossible de remonter à la source. »«
Avez-vous déjà essayé ? »
s'enquit Mrs. Plint, qui avait encore des doutes quant à l'habileté de Mrs. Robby. Mrs. Robby resta silencieuse un moment, puis elle répondit, les paupières baissées, « Non, mais un de mes amis a essayé, un homme très brillant, et il m'a dit qu'il valait mieux pour les femmes ne pas... » Un frisson parcourut la salle. Mrs. Leveret se mit à tousser afin que la femme de chambre, qui offrait des cigarettes, n'entendît pas. Le visage de Miss Van Vluyck prit une expression nauséeuse, et Mrs. Plint prit l'air de quelqu'un qui croise dans la rue une personne qu'elle ne désire pas saluer. Mais le plus remarquable fut l'effet produit par les mots de Mrs. Robby sur l'honorable invité du Lunch Club. Les traits impassibles d'Osric Dane se radoucirent soudain en une expression de chaleureuse humanité, et, approchant sa chaise de celle de Mrs. Robby, elle demanda « L'a-t-il vraiment fait ? Et vous, trouvez-vous qu'il ait eu raison ?» Mrs. Ballinger, à qui l'inhabituel ascendant pris par Mrs. Robby commençait à faire oublier la gratitude qu'elle lui devait pour l'aide qu'elle venait d'apporter au club, ne pouvait consentir à la laisser monopoliser, par des moyens aussi douteux, l'attention de leur invité. Si Osric Dane n'avait pas assez d'amour-propre pour reprocher à Mrs. Robby sa désinvolture, du moins le Lunch Club allait le faire en la personne de sa présidente. Mrs. Ballinger posa la main sur le bras de Mrs. Robby. « Nous ne devons pas oublier, dit-elle avec une amabilité glaciale, qu'aussi absorbant que Zingu puisse l'être pour nous, cela peut être beaucoup moins intéressant pour... « Oh non, au contraire, je vous assure !» intervint Osric Dane. « Pour les autres !» termina Mrs. Ballinger avec fermeté. « Et nous ne devons pas permettre que notre petite réunion se termine sans que nous ayons pu convaincre Mrs. Dane de nous dire quelques mots sur le sujet qui, aujourd'hui, est bien plus présent dans nos esprits. Je parle bien sûr des ailes de la mort. » Les autres membres, mus à des degrés divers par le même sentiment et encouragés par l'air un peu plus aimable de leur redoutable invité, emboîtèrent le pas à Mrs. Ballinger. « Oh oui, vous devez vraiment nous parler un peu de votre livre !» Le visage d'Osric Dane prit une expression aussi ennuyée que lorsqu'on avait précédemment abordé le sujet, même si elle était moins hautaine. Mais avant qu'elle ait pu répondre à Mrs. Ballinger, Mrs. Robby s'était levée de son siège et abaissait sa voilette sur son petit nez espiègle. « Je suis vraiment désolée, dit-elle, tendant la main à son hôtesse. Mais avant que Mrs. Dane ne commence, je crois que je ferais bien d'y aller. Malheureusement, comme vous le savez, je n'ai pas lu ces livres, alors je serais très mal à l'aise parmi vous. » Et par ailleurs, j'ai un engagement pour une partie de bridge. » Si Mrs. Robby en avait simplement appelé à son ignorance des ouvrages d'Osric Dane pour se retirer, le Lunch Club, au vu de ses récentes prouesses, aurait pu approuver une telle preuve de discrétion. Mais en plus de cette excuse, clamer haut et fort qu'elle abandonnait le privilège qui s'offrait à elle pour se joindre à une partie de bridge, ce n'était qu'une preuve de plus de son déplorable manque de jugement. Ces dames étaient disposées toutefois à penser que son départ, maintenant qu'elle avait rendu l'unique service qui pouvait être attendu d'elle, rendrait probablement à la discussion qui s'annonçait tout son sérieux et sa dignité, et de plus les délivrerait de ce sentiment d'insécurité qu'elles éprouvaient toujours mystérieusement en sa présence. Mrs. Ballinger se limita donc à un murmure de regret purement formel, et les autres membres se regroupaient déjà confortablement autour d'Osric Dane quand cette dernière, à leur profond désarroi, se leva du sofa sur lequel elle était installée. « Oh, attendez, mais attendez, je vais avec vous » lança-t-elle à Mrs. Robby, et elle se mit à serrer la main aux membres du club, complètement déconcertée, avec l'empressement mécanique d'un contrôleur poinçonnant des tickets. « « Je suis désolée, j'avais presque oublié !» leur cria-t-elle depuis le hall. Et elle rejoignit Mrs. Robbie, qui s'était retournée toute surprise à son appel. Et ces dames furent mortifiées de l'entendre dire, sans même se donner la peine de baisser la voix, « Si vous permettez que je fasse un petit bout de chemin avec vous, j'aimerais tellement vous poser quelques questions de plus sur Zingu. »